Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
J'aimerais, si vous le voulez bien, vous dire sept choses à propos du livre que Michel Serres vient de publier dans la collection Poche le Pommier sous le titre « Jules Verne, l'enchantement du monde ». Il s'agit d'une nouvelle version d'une conversation éditée en 2002-2003 dans la revue Jules Verne, conversation avec Jean-Paul Dequisse, fondateur de cette revue et de la maison de Jules Verne à Amiens. La première chose que j'aimerais vous dire concerne la démarche de Jules Verne par rapport à la science et comment Michel Serres explique que Jules Verne est avant tout, de ce point de vue, un vulgarisateur passionné. Jules Verne écrit dans les 40 dernières années du 19e siècle. La connaissance de la Terre s'achève, finitude d'une planète, alors Jules Verne, explique Michel Serres, assure le relais. Comme la Terre est finie, on part visiter la Lune. Le projet est d'envergure. Jules Verne veut associer la découverte de l'étendue spatiale et une encyclopédie globale. Les voyages extraordinaires nourrissent l'ambition de les parcourir en entier. Le monde global, le savoir intégral. Mais l'imagination chez lui, explique Michel Serres, se situe sur le plan des intrigues et de leur décor, non sur celui de l'anticipation scientifique. Il n'y a pas de science-fiction chez Jules Verne, dit Michel Serres. Plus encore, chez Jules Verne, la science date de son époque, ou plutôt d'avant son époque. La mécanique céleste dans « De la Terre à la Lune », la biologie dans « 20 000 lieues sous les mers », la géologie dans « Voyage au centre de la Terre », ou encore la géographie dans « Les enfants du capitaine Grant », quoique Jules Verne écrive pendant les quatre dernières décennies du 19e siècle, il récite, dit Michel Serres, la science des générations précédentes, dont Auguste Comte fit le bilan dans les années 1840. Ce que l'on sait encore moins de cette période d'explosion scientifique, c'est que les positivistes n'avaient pas nécessairement une vision optimiste de l'avenir, n'excluant même pas l'idée de décadence. Ainsi, explique Michel Serres, Jules Verne calque l'histoire, l'évolution des sociétés, ou même l'évolution de la science, sur les lois de la thermodynamique si importantes à son époque. À l'idée de progrès, il associe la nouvelle idée d'entropie. Dans les années 1880, après Mayer, certains disent le monde et l'histoire soumis à l'entropie croissante. Les hommes et le monde mourront de froid, disait-on, en raison de la dégradation de l'énergie. Jules Verne n'est donc pas un optimiste invétéré quant à l'avenir de notre planète, loin de là. Il suffit, dit Michel Serres, d'observer la conclusion qu'il a donnée à l'ensemble de son œuvre avec l'éternel Adam. On y découvre, explique encore Michel Serres, que tous les progrès que l'on a pu promouvoir au point de vue technique, social et politique mènent à une régression rapide et brutale, ou lente et continue, qui ramène l'humanité globale à son point de départ. La deuxième chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne, l'enchantement du monde, c'est quand bien Michel Serres insiste sur la dégradation des relations science et culture, science et société, savoir et société, depuis quelques décennies, par rapport au temps de Jules Verne. L'époque et l'œuvre de Jules Verne avaient réussi l'interface science-société, explique Michel Serres. Aujourd'hui, se casse la même interface. Plus grave encore, les forces sociales se retournent contre la science et ne travaillent plus avec elle. Ceci est l'un des aspects d'un changement brutal de société, ce que Michel Serres appelle le tremblement de terre mondial, vital, culturel et social de la seconde moitié du XXe siècle. Depuis les années 1970, dit Michel Serres, nous avons changé de monde et mieux encore, de connaissance du monde. Et ceci est d'autant plus important que la plupart des problèmes scientifiques deviennent des problèmes de société. Une sorte d'inquisition obscure multiplie les condamnations, affirme Michel Serres. C'est là où l'on aurait besoin d'autres intermédiaires que philosophes ou historiens des sciences. Ils occupent mal cette interface. La littérature seule, explique Michel Serres, romans, récits, histoires, aventures, le peut. Et de regretter le manque de nouveau Jules Verne. Je me plains parfois de ce qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un équivalent de Jules Verne, que l'on ne voit plus paraître ce type de récit ou d'interface entre la science et le grand public. La troisième chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne, L'enchantement du monde, c'est qu'en plusieurs points, Michel Serres apporte un éclairage nouveau sur Jules Verne, sur son œuvre et son audience. Sur un plan anecdotique, on découvre ainsi que Staline était un lecteur attentif de Jules Verne. Plus sérieusement, Michel Serres met en évidence la place de la femme dans son œuvre. La femme, dit-il, est toujours l'héroïne principale des voyages et leur clé. L'œuvre de Verne est un hymne grand à la délivrance du désir. Et de citer par exemple les relations de Phileas Fogg avec cet hindou qu'il épousera et l'histoire d'amour de Michel Strogoff avec Nadia. La femme, a compté Michel Serres, est présente dans 34 des voyages extraordinaires sur 62. Pas étonnant quand on sait, comme le rappelle Michel Serres, que Jules Verne a fui Nantes, sa ville natale, parce qu'on lui refusait, à lui, le poète, la main de celle qu'il aimait, une jeune fille de la bourgeoisie locale. Autre coup de projecteur décalé, Michel Serres insiste sur la défiance de Jules Verne à l'encontre de l'autorité politique. D'où, dit-il chez lui, tant de récits où le héros se révolte contre l'autorité abusive, l'impérialisme britannique aux Indes, par exemple. On pense évidemment à la figure ô combien emblématique du capitaine Nemo. À son sujet, Michel Serres ne va pas par quatre chemins. Oui, dit-il, le héros Nemo se nomme et se conduit comme un véritable terroriste. Prototype de l'anarchiste invisible, il se bat contre l'écrasement par une puissance coloniale de sa propre maison, de sa propre nation d'origine, de l'Inde. La quatrième chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne et l'enchantement du monde, c'est l'importance que Michel Serres accorde à l'aspect mystique et religieux dans l'œuvre de Jules Verne. Ses romans les plus réussis s'achèvent sur ce plan, estime Michel Serres, et de prendre l'exemple particulièrement significatif des Indes noires. À la fin, dit Michel Serres, ce récit de voyage et de sciences humaines se transmute soudain en une initiation platonicienne vers la connaissance vraie, hors de la caverne, ou en un roman mystique de la découverte de la lumière. Pour Michel Serres, le voyage, le savoir et cette dimension mystique et religieuse constituent bien les trois ingrédients de l'enchantement que génère la lecture de Jules Verne. Jules Verne, dit-il, exprime triplement l'enchantement du monde. Comme les miens, ses yeux et son corps s'enchantent d'abord de la beauté du monde. Le savoir le rend plus beau encore. Or, ce redoublement d'enchantement, produit par la rencontre entre la connaissance et la vue ou la visite, s'exprime chez lui en une troisième élévation par une référence mythologique ou religieuse. Le monde éclate tellement de miracles perçus puis vus que seul un récit fabuleux peut les relater, mieux, les chanter. La cinquième chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne et l'enchantement du monde, c'est comment Michel Serres fait ici l'aveu de certains éléments personnels de parenté avec l'auteur de 20 000 lieues sous les mers. Bien entendu, il rappelle l'influence exercée par Jules Verne sur tant et tant de lecteurs. « Dans la formation de ma génération, dit-il, Jules Verne compta parmi nos grands instituteurs, l'un de ceux qui nous firent passer de l'enfance à l'âge mûr. » Michel Serres en devient même lyrique lorsqu'il ajoute un peu plus loin « Les voyages extraordinaires furent à la jeunesse de quelques générations ce que dut être l'Odyssée à la jeunesse grecque. » Vient ensuite ce constat personnel. « Jules Verne m'a augmenté. La seule chose que je puisse dire avec autorité sur lui, c'est qu'il a été pour moi un auteur. De la lecture de ses livres, je suis sorti grandi, adulte, mieux savant et enthousiaste du monde. Il faut dire que non seulement Michel Serres a toujours voyagé avec passion et, comme il le dit si bien, s'enchante au paysage du monde, mais comme Jules Verne, c'est un homme de la mer. On oublie parfois que Jules Verne a navigué pendant 18 ans, mais on oublie aussi souvent que Michel Serres est officier de marine, ce qu'il constitue sans doute un exemple unique de diplômé à la fois de l'école navale et de l'école normale supérieure. Michel Serres est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une mer en furie. L'expérience de Joseph Conrad et de Typhon, il l'a partagée à sa manière. Comme il le raconte, autour de mes 20 ans, j'ai vécu la même expérience. 6 jours sur une mer à force 10, dans un bateau en perdition. L'amirauté nous porta disparu. Ce qui ne l'empêche pas d'exprimer sa reconnaissance à la mer. La mer, dit-il, réunit ce que les continents séparent. La 6e chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne, L'enchantement du monde, concerne le moyen que Michel Serres a choisi pour s'offrir aujourd'hui un substitut au récit extraordinaire de Jules Verne et partir à la découverte de toutes les richesses et de toutes les potentialités intellectuelles et relationnelles de notre monde. Michel Serres se livre ici à un hymne passionné à l'usage raisonné de l'ordinateur. Mon ordinateur, dit-il, maison dans laquelle j'habite, objet favori, quasi-objet, non fétiche mais fenêtre ouverte, concentré de mes relations et de mes fonctions, mémoire, imagination, opération rationnelle. Bref, ma tête et mon monde. L'écran de mon ordinateur, voilà le hublot de Nemo, le sabord de l'obus Columbiade, la fenêtre du wagon courant l'Ouest américain. Ils traversent tous le savoir et le monde. La 7e chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, Jules Verne, L'enchantement du monde, a trait aux confidences que Michel Serres y fait concernant ses relations avec l'Académie française. D'abord sur les conditions dans lesquelles il y est entré. Il a commencé par refuser de s'y présenter, puis, explique Michel Serres, comme j'ai pris la tête de la réédition du corpus des philosophes en langue française, la disposition d'une bibliothèque me devenait précieuse, ainsi que l'appui de l'Académie. Michel Serres parle également avec beaucoup d'humour du plaisir qu'il prend en la compagnie des autres académiciens et de l'utilité intellectuelle de leurs échanges. « J'y rencontre, dit Michel Serres, des gens charmants, qui à leur âge oublient volontiers les rapports de concurrence. De plus, l'expérience d'une jeunesse conservée grâce à l'intelligence rafraîchit. Une certaine vieillesse advient vite lorsqu'on ne travaille pas intellectuellement. » Mais au-delà des convenances personnelles, Michel Serres insiste sur le rôle de l'Académie française dans l'univers culturel comme, et cela ne fera sans doute pas plaisir à tous les membres de l'Institut, une sorte d'antidote à l'université. L'université me paraît, dit Michel Serres, l'une des responsables de l'épuisement de la création littéraire. Elle interdit, dit encore Michel Serres, le seul acte intellectuel valable, l'invention. Face à elle, explique-t-il, l'Académie française réunit en principe 40 créateurs littéraires. Mais ils deviennent rares, parce que l'université, où passe un pourcentage croissant de contemporains, propage des modèles anti-créatifs. Et il ajoute un peu plus loin, voilà pourquoi l'Académie reste un lieu anti-universitaire, comme lors de sa fondation. On comprend alors d'autant plus qu'il répond d'entrée de jeu à la question « Qu'est-ce que l'Académie française pour un académicien ?» Je cite « un monument national ». Je rappelle que Michel Serres a été reçu à l'Académie française le 31 janvier 1991. Son livre dont je viens de vous parler, Jules Verne, L'enchantement du monde, Conversation avec Jean-Paul de Kist, est, je le rappelle également, publié dans la collection Poche le Pommier.